Les orages maléfiques, chapitre 23.
Bali, Lombok et Nias, ces îles qu'il avait tant aimées, lui parurent les vestiges d'une époque lointaine. Il errait dans ses souvenirs, vagabondait à la recherche d'une éternité, des instants du bonheur enfui. Chaque avion l'emmenait dans son histoire, leur histoire. Rien ne parvenait à le satisfaire, hormis la carte postale retrouvée à Borobudur. Elle était incrustée à jamais dans son cœur. Après un coup de blues, il décida de changer d'air et de retourner à Hanoï, dans les montagnes à proximité de la frontière chinoise. Aucun vol direct ne desservant la destination, il dut se résoudre à 3 escales. 2 jours plus tard, il traînait son spleen dans les rues de Bangkok. La mégapole ne faisait pas partie de ses villes préférées. La pollution l'agressait et de nombreux habitants se déplaçaient avec un masque, protection illusoire contre l'air vicié de la capitale thaïlandaise. En attendant la prochaine correspondance, il se dirigea vers les quartiers chauds de la cité. Le spectacle l'édifia sur la dépravation et la corruption ambiante. Au sus et au vu de la police, des jeunes filles s'exhibaient sur des estrades, dans des bars ouverts sur la rue. Les Occidentaux se rinçaient l'œil en regardant ces corps où un string minuscule recouvrait la seule parcelle qui fournissait à ces pauvres jeunettes de quoi gagner leur vie. Le client pouvait choisir celle avec qui il souhaitait passer un moment ou la nuit. Il suffisait de demander le numéro collé sur la cuisse de sa proie. Il vit un étranger de plus de 70 ans partir avec 2 danseuses à son bras. Il aurait, pour un prix dérisoire, 2 poupées à sa disposition toute la nuit. Il pensa à ces pauvres jeunes femmes. La chair paraissait bien terne. C'était le résultat funeste de l'offre et de la demande. L'un avait l'argent et l'autre la marchandise humaine. Cette exposition dépravante l'attrista. Elle confirmait les nombreux reportages réalisés sur ce phénomène qui envahissait maintenant tous les pays touristiques. Ces adolescentes, originaires de la campagne, étaient recrutées moyennant l'octroi d'un prêt d'argent à un taux usuraire aux parents. La machine infernale ne s'arrêtait jamais, et, bien entendu, la famille ne pouvant rembourser, elle servait de caution et leurs gains se trouvaient confisqués pour honorer la dette. Elle ne pouvait sortir de cet engrenage que d'une seule manière, la mort. Pour éviter de grosses pertes, la mafia locale leur donnait accès à la drogue. Au bout des années d'esclavage, les épaves finissaient leur calvaire par une overdose fatale. Ainsi tournait l'économie parallèle qui gangrenait la jeunesse des provinces. En arrivant à Hanoï, il respira une grande bouffée. Il se sentait bien, comme si le ciel daignait lui offrir un espace d'air pur. Il choisit la même pension où il posa son maigre bagage et déambula dans les rues proches du lac de l'épée restituée. Le paysage l'apaisait, les gens se promenaient, les enfants jouaient en courant dans tous les sens. L'après-midi s'annonçait agréable. Il passa devant l'entrée où il avait fait une plaisante rencontre plusieurs mois auparavant. Il hésita 1 seconde et pénétra dans l'immense hall. Au bout du comptoir, elle était là, encore plus belle. Il s'approcha lentement. Elle pianotait sur l'ordinateur. Elle leva la tête et l'aperçut. Son visage exprima tout d'abord l'étonnement, puis un large sourire découvrit ses dents blanches. Elle s'adressa à lui en français, lui confia son plaisir de le revoir et de pouvoir parler dans une langue qu'elle aimait beaucoup. Ils discutèrent longuement. C'était la saison creuse et sa charge de travail l'autorisait à papoter à sa guise. Il lui demanda son prénom. Elle lui répliqua par une pirouette. Elle posa une question. Voulait-il connaître son prénom en vietnamien ou en français? Il lui rétorqua que les 2 seraient un bon début. Ils rirent de concert. Suong, ici, et Rosé, chez vous. Voilà, vous savez comment m'appeler désormais. Il se fendit en compliment sur cette révélation et la félicita. Elle lui confia n'y être pour rien. Ses parents l'avaient appelé ainsi, parce que son premier cri s'était produit de bonne heure le matin, quand la végétation se couvrait de rosée. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas senti le cœur aussi léger. Cette jeune femme, à la plastique magnifique, lui plaisait. Il se hasarda à lui demander ce qu'elle avait prévu ce soir. Elle lui répondit franchement qu'elle devait rentrer chez elle. Il fut déçu, mais comprit qu'elle ne pouvait se libérer facilement. Il lui demanda pour le lendemain, et sa réponse instantanée le ravit. Elle acceptait son invitation à dîner. Elle serait disponible à partir de 19 heures. Il dormit mal cette nuit-là. Ses rares phases de sommeil se peuplèrent de rêves érotiques. Il la voyait en Aodai devant lui. Elle quittait cet ensemble qui lui collait à la peau. Il se réveillait, toujours à cet instant précis, transpirant. Il ne doutait pas de sa virilité, mais tout en se rassurant, cela le mettait mal à l'aise. Il pensait à elle, dont il ne savait rien. Il culpabilisait sur sa jeunesse. Elle pourrait être sa fille. Oui, mais accepter de dîner avec un homme ne signifiait pas coucher avec lui. Il cherchait des prétextes pour justifier son béguin pour cette beauté asiatique. La journée s'écoula vite. Les heures s'égrenèrent plus rapidement qu'à l'accoutumée. Il admira les flamboyants fleuris dans un parc, à l'écart du lieu de son rendez-vous. Il ne voulait pas s'approcher avant l'heure prévue. Il se réservait la surprise de la découvrir à sa sortie du travail. Serait-elle en tenue traditionnelle, en jean ou en tenue de soirée? Il jubilait à cette idée. Aujourd'hui, l'humeur joyeuse prenait possession de sa personne. Tout lui semblait beau. Il savourait la parenthèse qui s'ouvrait devant lui. Ses sentiments s'inscrivaient en bleu dans sa palette de couleurs. Il était 19 heures, le rideau de fer venait de descendre. Elle ne tarderait pas à apparaître. Il arpentait le trottoir en face de l'agence. La porte adjacente s'ouvrit. Elle sortit lumineuse dans un chemisier et un jean délavé moulant. Le hâle de sa peau ressortait sur le blanc de son corsage. Ses longs cheveux de jais mettaient en valeur sa frimousse rieuse. Ils se saluèrent d'une poignée de main. Il aurait aimé l'embrasser, mais préféra plus de retenue. Elle pensa de même. La nuit posait son manteau d'ombre et de lumière sur la ville. Elle marchait d'un pas alerte. Il était surpris par ses petites enjambées rapides. Ils restèrent silencieux quelques instants et prirent la parole conjointement. L'initiative les surprit. Cela se renouvela à de nombreuses reprises. Il riait de bon cœur de ces coïncidences. Ils se regardaient avant de prendre la parole, mais rien n'y faisait, et ils s'amusèrent comme deux enfants de cette complicité. Ils convinrent de lever le doigt avant d'ouvrir la bouche. Ça ne changea pas grand-chose. Ils levaient l'index simultanément, et ce manège dura jusqu'au restaurant proposé par Siom. Elle lui avait réservé une rencontre originale. Le patron de l'établissement se déplaça en personne pour recevoir un client originaire de la belle France. Il devait avoir plus de 80 ans. L'œil restait vif et ses propos attestaient d'une parfaite maîtrise de la langue de Molière. L'établissement proposait un menu de poissons digne des grands chefs. Aucune hésitation, ils acceptèrent les suggestions du vieil homme. La cuisine se révéla un régal pour les papilles. Ils savourèrent chaque mets. Heureuse de son bon choix, la jeune femme apprécia les remerciements de son compagnon. Le patriarche les rejoignit à la fin du repas et prit plaisir à dialoguer avec ses convives. Il aimait les Français et gardait un bon souvenir d'eux malgré la guerre. Il ne disait pas la même chose des Américains. Ce vieux monsieur philosophait. Sa perception de la présence ennemie sur son sol témoignait de son pardon envers ceux qui lui avaient pris deux fils morts au combat. Il considérait que ce don à la patrie permettait aux survivants et à ses descendants de vivre des jours meilleurs. Il termina leur entretien en leur souhaitant de vivre en paix. Ils apprécièrent la sagesse du vieillard qui donnait le change en passant outre ses blessures. Ils se levèrent et se fixèrent longuement avant de quitter la table. Les regards échangés parlaient pour eux. Ils ne dirent rien. Elle passa devant. Ils descendirent les marches en se tenant à la rampe. Leurs mains se touchèrent. Elle ne le repoussa pas. Ils se regardèrent à nouveau et un sourire illumina leur visage. Il lui proposa de continuer la discussion à l'hôtel. Elle répondit qu'il se faisait tard, mais qu'elle acceptait d'échanger quelques mots de plus avec lui. Ils se retrouvèrent dans sa chambre. Il ne disposait que d'une unique chaise. Il lui proposa donc de s'asseoir sur le lit à ses côtés. Chacun attendait un geste de l'autre. Il osa enfin prendre sa tête entre ses mains et poser ses lèvres sur les siennes. Elle réagit avec tendresse et affection. Leur baiser sembla sans fin. Elle posa sa tête au creux de son épaule et le silence les berça un long moment. Par peur de brûler les étapes, il se contenta de l'embrasser encore et encore. Elle apprécia sa délicatesse. Elle habitait à quelques kilomètres d'Hanoï. Son scooter l'attendait dans la cour de l'agence. Il la raccompagna, puis ils se quittèrent dans un dernier baiser, en se promettant de se revoir dès le lendemain.